J'y remets ta pierre. Et m'empêche d'oublier.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Réveilleurs and shout, boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Tu te demandes c'est quoi le prog? T'aimerais en savoir plus? À l'émission L'ère du progrès, on revisite la naissance et l'évolution de la musique progressive sous toutes ses formes, puis on analyse son contenu pour mieux la comprendre. Le prog aura jamais été aussi accessible. Si ça t'intéresse, c'est les lundis soirs de 22h à 23h à Chiz 94.3 ou au www.chiz.ca. À bientôt!
Les intellectuels déclassés, ce sont trois animateurs sérieux qui commentent l'actualité et qui, après la pause, se transforment en trois qui discutent de la culture web québécoise. La pertinence chevauchant l'absurdité. Une émission 2 en 1, parfaite pour égayer vos soirées les jeudis 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
À tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3 pour un phare dans le midi, votre quotidienne d'actualité. C'est Guillaume Bédard qui est avec vous au micro en ce lundi 25 octobre 2021. Écoutez, on est la semaine de lecture ici à l'université, donc on prend un petit relâche, on fait émission juste lundi et vendredi, mais on a quand même plusieurs actualités dont il faut absolument qu'on parle. Entre autres, on va parler beaucoup d'environnement. C'est la COP26 qui s'en vient. La suite logique de la COP21 à Paris. La COP26 va se dérouler à Glasgow. On vous en parle. Il y a plusieurs enjeux qui sont liés à ça. On va parler d'élections municipales, bien entendu. On se rappelle que ce sont les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec le 7 novembre. Il y a déjà des votes par anticipation qui vont se tenir la fin de semaine prochaine. Donc, définitivement, qu'il faut qu'on vous en parle. À Québec, la lutte est particulièrement chaude. On va vous parler également de politique québécoise, beaucoup. On parle de santé, on parle d'éducation avec le nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise. Et on va terminer notre émission en parlant du projet de loi 2 et de transphobie. On va avoir une excellente entrevue avec une cinéaste et consultante sur les enjeux trans. Donc, manquez pas ça. En attendant, on va commencer comme il se doit en chansons et en musique. On va aller commencer avec Boomachika Boom de Jérôme 50. On vous revient tout de suite après vous écouter. Écoutez toujours un phare dans le midi sur les ondes de Chiz 94.3.
Chip, chocolat, gomme, barre de peanuts. Motus, et bouche cousue, je te tiens. Par la barbichette, tant pis si tu n'as pas dit ton dernier mot. Chit, shut up, boucle-la, pince mio, ne parle plus. Une lance, deux lances, trois lances, quatre lances, cinq lances, silence. Si, silence radio. Mais cette nuit, tous les enfants du monde chanteront à l'unisson par leur fenêtre et à tue-tête. Ça va faire
boum, boum. Boom, 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 boom
Matisse, c'est push, cruci. Chit, shut up. Bouclez la face, you.
Ça va faire
boum, 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 chica, boum. Boum, chica, wagga, chica, wagga, chica, boum. Boum, chica, wag, chica, wag, chica, boum.
Écoutez toujours Un phare dans le midi sur les ondes de Schiste 94.3, c'est Guillaume Bédard au micro et on part directement en environnement. Tel que je vous le rappelais, c'est la COP26 qui commence très bientôt. C'est quoi ça, la COP26? La COP26, c'est le 26e grand rassemblement organisé par l'ONU pour parler des changements climatiques. Il en organise un par année, mais ceux qui se passent aux 5 ans sont particulièrement importants. Donc, les années qui terminent par 1 et 6 spécifiquement. Donc, c'est pour ça qu'on parle autant de la COP26, qu'on avait parlé de la COP21 à Paris. Mais la COP26 va se dérouler à Glasgow, en Europe, et on va parler de plusieurs sujets. Et c'est tellement important comme rencontre au point de vue international que Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il va s'y rendre en personne. On sait que l'environnement fait partie des enjeux clés pour le Canada, le Canada étant encore aujourd'hui un pays dont l'économie dépend fortement du pétrole. Donc, la présence de Justin Trudeau pour tenter de trouver des solutions va être particulièrement pertinente, va être particulièrement remarquée. Monsieur Legault, le premier ministre du Québec, n'a pas encore annoncé s'il serait là lui-même ou s'il allait envoyer quelqu'un pour le représenter. Donc, les deux premiers jours de novembre se déroule la COP26. Justin Trudeau va s'y rendre. Il part dès demain. Il va quitter Ottawa juste après l'assermentation du Conseil des ministres, du nouveau Conseil des ministres, ce qui est un choix quand même. On s'entend que l'assermentation d'un nouveau Conseil des ministres, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'espace médiatique et surtout qu'on sait que sa nomination d'un ou d'une nouvelle ministre de la Défense est particulièrement mise sous la loupe. Donc, on va regarder ça avec une très grande attention. Il va commencer par rencontrer son homologue néerlandais des Pays-Bas, Mark Rutte, qui est un des plus anciens dirigeants de l'Europe, un des dirigeants de l'Europe qui sont en fonction depuis le plus longtemps. Il a été réélu cette année, donc on va voir... qu'est-ce qui va sortir de cette rencontre-là? Il va ensuite, M. Trudeau, être en rencontre pour le G20 le 30 et 31 octobre. Le G20, les 20 plus grandes économies du monde qui se rencontrent pour discuter essentiellement de commerce international et de politique internationale. Et il va terminer ça avec la COP26 pour les deux premiers jours de novembre à Glasgow. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir des grands engagements qui vont être pris là? C'est à voir parce que ce qu'on nous apprend aujourd'hui dans Radio-Canada par l'agence France Presse, c'est que l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a... émis un communiqué à l'adresse du monde entier, voulant que, selon une de ses branches, l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, les concentrations des trois principaux gaz à effet de serre qui piègent la chaleur dans l'atmosphère ont atteint un nouveau sommet en 2020. Donc, les changements climatiques sont là pour rester et ils sont en fait pires que ce qu'on pensait. On est présentement en train de échouer complètement nos objectifs. On risque fortement de dépasser les augmentations de température qu'on avait visées. On se rappelle qu'il y a 5 ans, à la COP21, on avait demandé à ce que l'augmentation de la température de la Terre reste entre 1,5 à 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. Selon le secrétaire général de l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, Petteri Taalas, nous sommes très loin du but. Au rythme où augmentent les concentrations de gaz à effet de serre, l'élévation des températures à la fin du siècle sera bien supérieure aux objectifs de l'accord de Paris. Beaucoup de pays se fixent maintenant des objectifs de neutralité carbone et nous espérons voir une majoration spectaculaire des engagements à la COP26. Nous devons repenser l'industrie, le secteur énergétique et les transports et tout notre mode de vie. Les transformations nécessaires sont économiquement abordables et techniquement faisables. Il n'y a pas de temps à perdre. Donc, c'est l'ONU qui partage ce communiqué de la part de l'Organisation météorologique mondiale. Et parce que selon les dernières évaluations de l'ONU, les engagements de réduction actuelle de gaz à effet de serre de près de 200 pays conduiraient à un réchauffement de 2,7 degrés Celsius. On est quasiment à deux fois ce que l'objectif. C'est énorme. C'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Donc, on va voir quelles mesures vont être annoncées à la COP26, quels engagements vont être pris, parce que présentement, ça va mal et ça n'a pas l'air de s'améliorer de sitôt. Mais c'est sûr qu'un des enjeux qui vraiment achoppe, qui empêche ces discussions-là de très bien se passer, c'est le concept de justice climatique. La branche de Radio-Canada qui s'appelle Carbone, qui parle d'environnement, a fait des vraiment excellents capsules pour parler de justice climatique. Parce que, essentiellement, on se dit, ben oui, on fait un budget carbone. On se dit, si on veut limiter notre réchauffement à 1,5 degrés Celsius, ben ça veut dire qu'on a le droit à une certaine quantité de gaz à effet de serre supplémentaire dans l'atmosphère, de méthane, de CO2, de nitrate d'oxygène, de gaz à effet de serre. Mais ces gaz à effet de serre-là, comment est-ce qu'on les répartit sur la planète? Qui est-ce qui a le droit de dépenser quoi? Et c'est là que vient la question. C'est une question fort épineuse. Qui est-ce qui donne le droit à quelqu'un de dépenser ses crédits carbone? Est-ce que c'est les pays riches qui ont le plus le droit? Est-ce que c'est les pays les plus développés? Est-ce que c'est au contraire les pays qui ont besoin de se développer, qui ont besoin d'utiliser d'autres technologies? Comment est-ce qu'on fait pour, après ça, se défaire de cette dépendance à une technologie polluante? C'est beaucoup, 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 beaucoup de questions qui sont présentement encore en suspens et auxquelles on n'a pas de réponse, et on espère que les dirigeants mondiaux vont être capables de trouver une réponse à ces questions-là, justement, durant la COP26. On a des annonces parallèlement, non pas de dirigeants, mais vraiment d'acteurs du secteur privé. C'est un article de Mathieu Dion dans Radio-Canada. Des investisseurs canadiens gérant 5200 milliards de dollars signent une déclaration pour tenter de collectivement diminuer l'impact de leurs émissions carbone. Parce qu'on sait qu'une des raisons pour lesquelles les entreprises d'exploration pétrolière, les cimenteries, continuent de fonctionner aussi bien, même si elles polluent autant la planète, ben c'est pour la simple et bonne raison qu'elles sont particulièrement profitables. Et comme elles sont particulièrement profitables, elles continuent à recevoir des investissements privés, à recevoir des investissements de différentes banques. Et là, on a plusieurs grandes banques canadiennes, dont Desjardins, dont la Banque nationale, qui signent cette déclaration-là et qui disent « Non, on va trouver un moyen de désinvestir peu à peu des énergies fossiles et de commencer à investir dans autre chose, dans des nouvelles solutions qui seront plus verte pour faire progresser l'objectif mondial de zéro émission nette. Ils vont demander à chaque entreprise qu'ils financent de divulguer leurs émissions de gaz à effet de serre, de fixer des objectifs en matière d'émissions et de rendre des comptes de leur progrès. Donc, d'ici peu, on devrait savoir exactement, lorsqu'on place notre argent à la banque, à quoi sert cet argent-là? Qu'est-ce qui est financé par cet argent-là de manière plus claire, plus transparente? C'est quand même une bonne nouvelle. Est-ce que ça va avoir un grand impact? C'est à voir. C'est vraiment à voir. Mais on peut se dire définitivement que cette conscience sociale commence à exister, qu'il y a vraiment des gens qui ont envie d'améliorer le sort de la planète, même dans le monde fiscal. On va terminer cette section environnement avec un petit article un petit peu plus local. On va parler du lac Saint-Pierre dans le bout de Trois-Rivières, Nicolet, Bécancour. Le lac Saint-Pierre, on se rappelle, c'est un élargissement du fleuve Saint-Laurent. Eh bien, la Défense nationale, l'armée canadienne, a utilisé le lac Saint-Pierre comme une cible de tir à obus pendant des années et des années. On estime qu'il y a environ 500 000 obus qui ont été tirés dans le lac Saint-Pierre. On peut s'entendre que c'est peut-être pas la meilleure idée que quiconque ait jamais eue de sa vie, mais aujourd'hui, le ministère de la Défense se dit prêt à dépolluer un petit peu le lac Saint-Pierre, qui est rendu une réserve de la biosphère reconnue par l'UNESCO. Eh bien, ils se disent, ben on va dépolluer ça, on va retirer 15 000 obus du fond du lac Saint-Pierre, mais ce projet-là pourrait provoquer la mort d'un millier de poissons, en plus d'avoir des conséquences sur plusieurs espèces d'oiseaux qui se nourrissent de ces populations de poissons-là. Donc, est-ce que ça va réellement avoir un effet bénéfique? C'est vraiment pas très, très clair. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous conseille d'aller lire l'article d'Alexandre Shields dans Le Devoir. Sur ce, on va prendre une petite pause musicale ici à Chiz 94. On vous revient tout de suite après à Un phare dans le midi, votre quotidienne d'actualité.
Calibéra, deux œufs tournés, qualité gras. Avec un bon café, t'as mérité ça. pizza. Wake and bake, hamburger helper, you're a snake. Derrière les fourneaux, you're so great. Déjeuner deux fois, tu vas pas me briller. Hey, Normal Tuesday!
Oh ouais, man, oh ouais, man, ah, c'est ça qui est son nom.
Mais moi, j'aime tout le monde.
Non, mais mettons, t'es pas sûr là, que c'est pas Monique, là.
On se casse le cou.
Moi j'aime tout le monde, mais tout le monde est pas prêt à s'aimer. Moi j'aime tout le monde, mais tout le monde est pas prêt à s'aimer. Moi j'aime tout le monde, mais tout le monde est pas prêt à s'aimer. Moi j'aime tout le monde, mais tout le monde est pas prêt à s'aimer. Moi j'aime tout le monde, mais tout le monde est pas prêt à s'aimer. Moi j'aime tout le monde, mais tout le monde est pas prêt à s'aimer. Moi j'aime tout le monde.
Rebonjour et re-bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours Guillaume Médard qui est avec vous au micro pour Un Fort dans le Midi. Et on s'en va en nouvelle politique québécoise. On commence directement avec la recension des nouveaux cas de COVID-19. On a présentement 324 nouveaux cas de COVID-19 et 9 hospitalisations supplémentaires dans les 24 dernières heures. La baisse du nombre de nouveaux cas, c'est excellent. Vraiment, là, on est dans une bonne nouvelle. On était la semaine passée, l'autre semaine d'avant, on tournait autour de 500-600 nouveaux cas par jour à 324 nouveaux cas. C'est une bonne baisse, c'est une baisse notable, c'est une baisse importante. On se rappelle que parmi ces 324 nouveaux cas, il y en a 216 qui sont des personnes qui ne sont pas adéquatement vaccinées. Il y avait 216 personnes qui sont des personnes non vaccinées ou n'ayant reçu qu'une seule dose il y a moins de 14 jours. Il y a au moins deux semaines. Et 104 avaient reçu une deuxième dose il y a au moins 7 jours. Donc, on a 220 personnes qui n'étaient pas adéquatement vaccinées sur 324 nouveaux cas. Donc, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore adéquatement vacciné contre la COVID-19, allez le faire. Il y a une clinique sans rendez-vous ici même à l'Université Laval. On le voit jour après jour. Les chiffres le montrent. Si vous n'êtes pas vacciné, vous avez énormément plus de chances de contracter la COVID-19 et surtout de la passer à un proche. Ce qui est un petit peu plus inquiétant, par contre, c'est la hausse des hospitalisations. Donc, on a 9 hospitalisations supplémentaires. On est rendu à 259 hospitalisations, dont 69 sont aux soins intensifs, une augmentation de 4. Donc, même si on est à une baisse drastique du nombre de personnes infectées, il y a encore une hausse des hospitalisations. Et dans ces hospitalisations, on est encore plus énormément il y a une plus grande proportion encore de gens qui ne sont pas vaccinés. Donc, ça cause encore des problèmes. La pandémie de COVID-19 n'est pas terminée essentiellement parce qu'on n'est pas encore capable d'assurer une population complètement vaccinée. Et ça, c'est dangereux pour l'ensemble de la population, c'est dangereux pour la santé publique. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement avait demandé de faire la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé. Mais ça ne s'était pas fait. Ça ne s'était pas fait. Ils avaient reculé, ils avaient repoussé la date butoir d'un mois. Donc, on était supposé avoir une vaccination obligatoire dans le réseau de la santé le 15 octobre. Finalement, ce sera le 15 novembre. Et aujourd'hui, ce que Fanny Lévesque de La Presse nous apprend, c'est que le premier ministre du Québec, François Legault, ouvre la porte à un autre report du décret ou à son application partielle. Il a dit, c'est sûr qu'on va être capable de l'appliquer à certains endroits, comme par exemple aux urgences. Donc, tout le monde aux urgences sera complètement vacciné. Par contre, il y a une telle pénurie de main-d'œuvre au Québec que c'est pas sûr qu'on va être capable de l'appliquer au grand complet, qu'on va être capable de faire respecter essentiellement ce décret-là de vaccination obligatoire dans le domaine de la santé sans réduire les services. Donc, peut-être que la solution du gouvernement, ça va être de l'appliquer uniquement dans certains secteurs où les contacts avec les patients, c'est des contacts avec des patients beaucoup plus... Beaucoup plus à risque, beaucoup plus fragile au niveau de la santé. C'est à voir. On va continuer de suivre ça pour vous avec une très, très, très grande attention. On a également, en parlant de santé, il y a un article de Olivier Bossé dans Le Soleil qui raconte une entrevue qu'il a faite avec Sol Zanetti, le député de Québec solidaire pour Jean Lesage, qui est essentiellement Limoilou, le quartier de Limoilou, et qui raconte à quel point ça a été difficile pour lui d'avoir un rendez-vous pour sa mère. Il raconte également que même pour lui, c'était difficile d'avoir un rendez-vous alors qu'il avait un médecin de famille. Et donc, il demande, au nom de Québec solidaire, il demande plus de services pour tout le monde, une meilleure prise en charge des patients, un guichet unique, parce qu'en ce moment, c'est vraiment un dédale administratif. Et le député de Jean Lesage, Sol Zanetti, blâme essentiellement la privatisation du système de la santé pour ce dédale administratif, pour ses complications. Allez lire l'article complet, c'est vraiment très, très, très intéressant. Si ça vous intéresse, c'est dans Le Soleil. On va aller prendre une petite pause publicitaire et musicale et on vous revient tout de suite après avec des nouvelles municipales et sur l'éducation. Vous écoutez toujours votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3.
Hey Pat, qu'est-ce que Jean Leloup, Jane Austen et Salvador Dali ont en commun?
Des cheveux?
Ben, j'allais plutôt dire qu'ils peuvent tous nous apprendre de grandes et de petites choses sur la vie grâce à leur rapport créatif et intellectuel dans leurs disciplines respectives.
Ah, donc c'est pour ça qu'on parle d'eux à la Planète des Sages, l'émission qui, chaque semaine, s'intéresse à la pensée d'une figure populaire afin d'en retirer un peu de sagesse.
Rendez-vous les jeudis 11h sur les ondes de Chiz 94.3.
Fait que les cheveux, c'était pas bon?
Non, c'était pas bon.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés.
Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Comme poupée russe, objectif être riche comme Crésus. Il n'y croyait pas dès le début. On l'avait bien dit, mais t'as pas cru. Il découvre qui je suis comme poupée russe. Objectif être riche comme Crésus. Je suis bien la preuve que tout est possible, tout est possible. Bébé, tu peux monter dans mon bolide, dans mon bolide. Je suis la compétition, je mérite, je mérite. Hey. Meilleur chrono après un tour de piste. Au moins, faut pas, je les vois applaudir. Y'a pas de succès sans échec. Je saute sur le casque comme une trampoline. T'as toujours pas fini le cégep. Prochain movie, je suis au Black Office. Comme tu, Viola Davis. Si demain tout s'arrête, c'est la vie. Ils verseront des larmes de crocodile. J'ai changé de classe économique. Je
la famille noire, je purge la police. Pas de pétanque, y'aura pas de justice. Soit t'es un allié, soit t'es leur complice.
Ah ouais,
je prends plus les DM, les déclarations, les appels manqués et sollicitations. Les tapis rouges et félicitations. Normal, on est toujours dans l'action.
Ils n'y croyaient pas dès le début.
Non,
on te l'avait bien dit, mais t'as pas cru.
Non,
ils découvrent que je suis comme poupée russe.
Ah. Non,
objectif être riche comme Crésus.
What?
Ils n'y croyaient pas dès le début.
Non,
j'avais bien dit, mais t'as pas cru.
Non,
ils découvrent qui je suis comme poupée russe.
Ah, non,
objectif être riche comme Crésus.
J'verse 2-3 gouttes d'eau bénite. Prie pour qu'atteigne le zénith.
Amen.
Le racisme est systémique, l'élite nous prend pour des débiles. Le respect se mérite. J'suis ton ancienne pata petite. Métal sur les chevilles, à chaque humain par devise.
Par devise.
C'est la revanche, on va tout tour rapatrier.
Ok, ok.
Mes redevances me font pas tout. Le mépris et les propos déplacés, comme après tsunami t'es dévasté. Trop de lâcheté, t'aimes pas les matérialismes et le dernier sac tu l'as acheté. Alou n'engendre pas de brebis, je transcende le game à chaque vendredi. Plus souvent qu'autrement, vous faites les choses médiocrement. Beaucoup se vendent, sont arrogants,
hein?
On fait les choses sobrement.
Ils n'y croyaient pas dès le début.
Non,
on te l'avait bien dit, mais t'as pas cru.
Non,
ils découvrent que je suis comme poupée russe.
Ah. Non,
objectif être riche comme Crésus.
What?
Ils n'y croyaient pas dès le début.
Non,
on te l'avait bien dit, mais t'as pas cru.
Non,
ils découvrent que je suis comme poupée russe.
Ah. Non,
objectif être riche comme Crésus.
Crésus, Crésus, Crésus.
Bonjour, bonjour et bienvenue à Phare dans le Midi, votre émission d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours Guillaume Bédard qui est avec vous au micro et on va parler rapidement du nouveau cours qui a été annoncé par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. On se rappelle que mardi, la semaine dernière, ça a été le discours inaugural de François Legault pour cette deuxième session de cette 42e législature. Et donc, le premier ministre mettait la table pour ses priorités pour la prochaine année. Et là-dedans, il y avait l'abolition du cours d'éthique et culture religieuse. Eh bien, aujourd'hui, le ministre de l'Éducation a montré essentiellement qu'est-ce qui allait le remplacer. Qu'est-ce qui allait remplacer ce cours de CR qui était plutôt controversé quand même. On se rappelle que ça fait plusieurs années que certains intervenants, surtout du côté nationaliste du spectre politique québécois, demandaient son remplacement, son abolition. Et donc, le ministre de l'Éducation, François Roberge, a dit ceci hier par rapport au changement de programme. L'ancien programme reposait sur un dogme que c'est l'appartenance à une communauté religieuse qui définit essentiellement notre identité. On ne peut plus tolérer ce genre de biais au Québec dans nos écoles. Les informations que j'ai viennent de Laurent Lavoie du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Donc le ministre continue par rapport à sa réforme. On doit apprendre à l'école à aborder des questions sensibles et demeurer respectueux lorsqu'on est en désaccord. Et c'est pour ça qu'il propose 3 grands axes pour son nouveau cours. Culture, citoyenneté québécoise et dialogue et pensée critique. C'est sûr que ça fait beaucoup penser au volet éthique de éthique et culture religieuse qui, on se rappelle, avait remplacé les cours de religion qui étaient obligatoires avant la mise en place du cours d'éthique et culture religieuse. C'était déjà un pas dans la direction d'une certaine laïcisation de l'école, de dire, ben vous allez arrêter d'avoir des cours d'éducation catholique, des cours de catéchèse, et vous allez apprendre à propos des différentes religions. Ben là, on va encore plus loin. On va essayer de séparer le plus possible l'Église de l'État en enseignant la culture québécoise et en enseignant la religion comme étant une part possible de l'identité uniquement. Le président du mouvement laïque québécois, Daniel Barry, salue le virage du gouvernement Legault et je le cite, « L'approche que défend le ministre me paraît quand même positive sur l'emphase mise sur la culture québécoise comme pôle de référence. On parle aussi de liberté de conscience plutôt que de liberté de religion. » C'est sûr que oui, il y a des gens qui sont particulièrement pour, mais il y a aussi des gens qui sont un peu plus en désaccord. La presse, sous la plume de Coralie Laplante, entre autres, fait une petite compilation des réactions de gens qui ne sont pas particulièrement réceptifs à ce changement-là. On a, par exemple, Lynn Dubé, présidente de l'Association québécoise en éthique et culture religieuse, qui dit que ben c'est pas encore clair comment ça va s'articuler sur le plancher des vaches parce que axe compétence savoir ça semble interchangeable dans la bouche du ministre mais dans une salle de classe ce n'est pas la même chose. Pour Normand Baillargeon, essayiste, auteur, ancien professeur en sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal, c'est ce qui est un critique du cours de CR, mais il dit quand même qu'il faut pas tomber dans le danger d'endoctrinement sur le plan intellectuel et le danger de propagande sur le plan politique. On a également des anciens bâtisseurs du programme de CR, entre autres le philosophe Georges Leroux, qui disent, ben ce qu'on avait bâti, on l'avait bâti avec tout le monde, en collaboration avec tout le monde, et particulièrement en collaboration avec les enseignantes et les enseignants. Là, ça, c'est un programme qui a été monté en cachette, qui n'est basé sur rien, sauf une volonté politique. Donc, d'où est-ce que ça sort? C'est quoi ça, cette affirmation nationale-là? J'ai l'impression qu'on va continuer à en entendre parler quand même longtemps de ce débat-là, de ce débat sur le changement de cours. On va continuer à suivre ça pour vous avec une très grande attention ici à Un Phare dans le Midi sur les ondes de CHIZ 94.3, tout comme la demande conjointe de Québec solidaire et du Parti québécois par leur porte-parole en matière d'éducation, respectivement Christine Labrie et Véronique Yvon, députée de Sherbrooke et députée de Joliette, qui demandent à ce qu'on mette fin à la présence de professeurs non qualifiés dans les écoles. Donc, l'éducation risque fort, fort, fort de faire partie des priorités et des enjeux chauds lors des prochains débats politiques. On se rappelle qu'il reste moins d'un an avant la prochaine élection au Québec. Donc, c'est quand même assez intéressant et ça se rapproche de plus en plus. On a également d'autres élections qui se passent un petit peu partout au Québec. En ce moment, ce sont les élections municipales. On va faire un rapide tour d'horizon de ces élections municipales parce qu'on va aller voter à partir de la fin de semaine prochaine. Donc, il y a des votes qui se tiennent en fin de semaine. Il y a des votes également qui vont se tenir le 7 novembre prochain. Et à Québec, la lutte est particulièrement serrée. On a 5 grands partis qui tentent d'accéder à la mairie. On a le parti de l'équipe sortante, équipe Marie-Josée Savard, qui tente de succéder à Équipe Labeaume. On a également Québec 21 de Jean-François Gosselin, qui était l'opposition officielle. On a Québec Fort et Fier de Bruno Marchand, qui est un nouveau parti, mais qui commence à s'imposer définitivement sur la scène municipale, qui pourrait même potentiellement ravir la mairie des mains de Mme Savard. On a Démocratie Québec, le parti de Jean Rousseau, et on a Transition Québec de Jackie Smith, qui est les gauchistes, l'aile vraiment à gauche, qui met la lutte au changement climatique au cœur de ses revendications. Écoutez, je parlais hier avec des sources confidentielles qui me disaient que dans la cité Limoilou, on parlait vraiment beaucoup de lutte entre Transition Québec et Québec Fort et Fier, les autres partis étant moins populaires, alors que dans les banlieues, on sait que Québec 21 et équipe Marie-Josée Savard, c'est là qu'ils vont faire le plein d'appui, vraiment. Donc, qui est-ce qui va se faire élire? Comment est-ce que ça va se passer? Ça va vraiment être une lutte très, très, très chaude à suivre. Et on a un article de Judith Desmeul dans Le Soleil qui fait un tour d'horizon de la politique municipale. Si ça vous intéresse, je vous encourage vraiment très, très, très fortement à aller lire cet article. Il vaut la peine définitivement, mais on va aller parler des différents sujets. Déjà, on a eu une annonce de Jean Rousseau de Démocratie Québec qui veut sauver la serre du zoo de Québec. On se rappelle que le zoo de Québec n'est plus en activité depuis maintenant bientôt 10 ans parce que il n'était pas profitable. Il ne l'a jamais été. Ça a toujours été un trou à argent. Et là, maintenant, le candidat à la mairie veut que ce fleuron de la ville de Québec puisse servir aux élèves de la nouvelle école qui sera construite juste à côté dans le centre des services scolaires des premières seigneuries. Donc, il y a une nouvelle polyvalente qui va être construite dans le secteur de Charlebourg et M. Rousseau veut qu'il puisse avoir accès à cette voilière qui est une structure fort, fort, fort impressionnante, mais également un peu trop grosse pour les usages qu'on voulait en faire jusqu'à date. Donc, comment est-ce que ça va se passer? C'est à voir, c'est à voir. On a également Mme Jackie Smith de Transition Québec qui a fait passer une pétition, qui a parti une pétition pour forcer Marie-Josée Savard à rendre public le nombre d'arbres à abattre pour faire passer le tramway à Québec. On se rappelle que le tramway de Québec va s'implanter, entre autres, le long du boulevard René-Lévesque, qui est un boulevard sur lequel il y a vraiment plusieurs arbres. Et il y a un bureau de projet à la Ville de Québec qui a fait une étude pour le compte du ministère de l'Environnement du Québec pour essayer d'évaluer l'impact environnemental de ces coupes d'arbres, de l'implantation du réseau de tramway. Et pour l'instant, Marie-Josée Savard refuse de rendre ces informations-là publiques. C'est Jean-François Gosselin qui lui a demandé en premier, lors du débat organisé par Chiz 94.3, par Impact Campus, par la CADEL et l'Allier, jeudi soir dernier. Et depuis, ça continue à coller à la peau de Mme Savard. Monsieur Gosselin demande même sa démission, dit que sa candidature n'est pas légitime si elle n'est pas capable de s'adresser honnêtement à la population par rapport à justement ces considérations-là. Est-ce qu'elle est même qualifiée, selon lui, pour mener la ville si elle n'est pas capable de dire aux citoyens quel impact auront ses décisions? Je le cite directement, le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin. On aspire à diriger la Ville de Québec. On est devant vous ce matin pour parler de transparence. C'est la base d'une administration municipale. Mais là, Mme Savoir, à moins de 2 semaines du vote, à moins de quelques jours du vote par anticipation, ne veut pas rendre public des données fondamentales sur un secteur qui est en plein milieu du tracé en plus. Ce sera aux citoyens de décider si, à la lumière de ce qui se passe présentement et des agissements de Mme Savoir, elle est légitime pour diriger la Ville de Québec. C'est des informations qui ont été récoltées par Stéphanie Martin du Journal de Québec. Est-ce que ça va avoir un impact, ça, cette pétition de Transition Québec pour sauver les arbres, ces accusations de la part de Québec 21? On sait que ça fait beaucoup réagir, particulièrement dans le quartier Montcalm-Saint-Sacrement, mais ça, c'est un quartier sur plusieurs. Est-ce que ce sera suffisant pour faire changer la balance? C'est à voir, c'est à voir. On a finalement... Monsieur Bruno Marchand de Québec Fort et Fier qui a annoncé samedi lors d'une conférence de presse l'ajout de 3 engagements à ses promesses électorales. C'est des informations de Marie-Soleil Brault dans Le Soleil. Donc, il veut bonifier le programme Accès Famille, il veut un meilleur financement des corporations de loisirs et de quartiers et il veut une fête de Québec réinventée. Donc, il a présenté ses engagements pour avoir une ville de Québec plus proche des familles. On va prendre une petite pause musicale et on vous revient tout de suite après avec une entrevue exclusive ici même sur les ondes de Chiz 94.3. On va aller parler de transphobie et du projet de loi 2 du gouvernement Legault. Vous écoutez toujours un phare dans le midi sur les ondes de Chiz 94.3. Bonjour et re-bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutez toujours Un Fort dans le midi, votre quotidienne d'actualité. Et on a présentement la chance, l'honneur et l'incroyable plaisir de recevoir avec nous en ondes, par téléphone, une des autrices d'une lettre ouverte qui a été publiée dans le L Québec cette fin de semaine. Alice Bédard, scénariste, réalisatrice, productrice, consultante et conférencière sur la représentation trans à l'écran. Bonjour Alice.
Allô, allô.
Comment ça va aujourd'hui?
Ça va occuper. Ça bouge beaucoup.
Ça bouge beaucoup. Écoute, cette lettre ouverte-là qui a été publiée dans le L Québec, elle parle du projet de loi 2 du gouvernement du Québec, projet de loi qui a été déposé par le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, qui est également ministre responsable de la lutte à la transphobie et à l'homophobie. Peux-tu nous parler un petit peu du contenu de cette loi-là et pourquoi est-ce qu'elle a autant fait réagir?
Alors, en fait, la loi en tant que telle, elle est massive, fait 116 pages, contient quelque chose en 300 articles. Puis il y a des bonnes choses dans cette loi, mais parmi toutes les belles choses que cette loi apporte, entre autres par rapport aux femmes, aux mères porteuses, au remplacement de certains thèmes un petit peu plus désuets dans le code civil, il y a aussi des articles, entre autres l'article 23, qui est profondément transphobe et qui recule les droits des personnes trans 15-20 ans en arrière, ce qui est un peu incompréhensible pour la communauté. Donc, c'est ça qui nous a fait réagir.
Et cet article-là, particulièrement transphobe, comme tu le dis, c'est des mots forts que tu emploies, c'est des mots forts que plusieurs personnes qui ont signé cette lettre, Hubert Lenoir, qu'on entendait à l'instant, Chris Bergeron, Henri June Pilote, Kate Lessard, Alicia Kazobinka, beaucoup de représentants de la communauté trans et non-binaire au Québec qui dénoncent ça. C'est quoi exactement cet article-là? C'est quoi qui fait réagir spécifiquement?
Alors, il y a plusieurs choses, mais l'article 23, ce qu'il décrit, c'est que à partir du moment que la loi est appliquée, les seules personnes trans qui pourront changer leur mention du sexe sur leur document officiel sont les personnes qui auront eu des chirurgies d'affirmation de genre sur leurs organes génitaux spécifiquement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que il y a juste le tiers des personnes trans qui vont vouloir faire des opérations comme ça. C'est quelque chose qui est des grandes décisions à prendre. Puis c'est une minorité de la population de la communauté qui va décider de le faire. Puis là, c'est comme considérer un prérequis pour pouvoir et à avoir droit à son identité, finalement, ce qui est non seulement absurde, mais qui met du monde en danger, clairement.
Oui, effectivement, parce qu'on se rappelle que la communauté trans est une des communautés au Québec qui fait partie des communautés les plus marginalisées, les plus discriminées, mais aussi les plus à risque de suicide et d'automutilation. Donc, mettre de la pression sur cette communauté-là, c'est peut-être pas une bonne idée en tant que telle. Et surtout, cette espèce d'obligation à avoir des chirurgies génitales, pour les personnes qui sont des femmes trans, c'est plus simple. Mais pour les hommes trans, on sait que ces chirurgies-là sont beaucoup plus compliquées, sont faites en plusieurs étapes. Et donc, à quel moment est-ce que ça se passe? Donc, même dans son application, là, cette loi-là n'est pas très, très claire et même pas applicable, en fait. C'est ça que je comprends.
Bien, c'est ça. C'est... En fait, le plus gros problème, c'est que clairement, cette loi-là n'est pas basée sur la réalité de personne. Elle est basée sur des préjugés, elle est basée sur des idées préconçues, sur des mythes qui ont été démystifiés, ça fait 30 ans de ça. Mais, comme tu l'as si bien mentionné, ça efface complètement la réalité des hommes trans. C'est incompréhensible, en fait. C'est incompréhensible que aujourd'hui, à l'année où on est, au moment où on est, qu'on se base sur rien du tout pour concevoir un projet de loi qui va avoir que des aspects négatifs pour la communauté que le ministre est censé protéger, finalement.
Oui, effectivement. Mais là, est-ce que vous avez reçu des appuis suite à cette lettre-là au niveau politique, au niveau médiatique? Est-ce qu'il se passe quelque chose de bien en votre faveur en ce moment?
Alors, il y a Manon Massé qui s'est montré très vocale envers tout ça, Québec solidaire en général. Ce qu'on espère, c'est qu'il va y avoir des réactions à travers la classe politique dans les prochaines semaines, parce que ce projet de loi-là va être débattu. Nous, ce qu'on demande dans le contexte de la lettre, c'est que les articles transphobes soient radiés. Parce que on peut dire juger transphobe, mais je à un moment donné, si c'est quelque chose qui va être là pour discriminer, pour marginaliser, je pense qu'on peut appeler un chat un chat. Donc les articles transphobes soient enlevés, que les différents organismes, tu sais, il y a plein d'organismes pour les droits des personnes LGBT qui sont disponibles pour être consultés, pour aider à concevoir des projets de loi pour améliorer la situation des personnes trans et non binaires. Donc, si la classe politique pouvait se joindre autour de bénéficier la population, une des populations les plus stigmatisées et les plus marginalisées du Québec, ça pourrait vraiment être quelque chose de bénéfique.
Merci beaucoup. Écoute, cette entrevue tire à sa fin, tout comme notre émission ici à Un Fort dans le Midi sur les ondes de Chiz 94.3. Donc, en une dernière minute, Alice Bédard, scénariste, réalisatrice, productrice, consultante et conférencière sur la représentation trans à l'écran. Qu'est-ce que nos auditrices, nos auditeurs doivent retenir de cette controverse autour du projet de loi 2 et qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement?
Ce qu'ils peuvent faire, je pense que c'est de continuer à en parler, continuer à partager ce message-là, à faire entendre votre voix par rapport au fait que, tu sais, même si ça ne vous concerne pas directement, ça concerne des personnes québécoises, des citoyens, des voisins, de partager ça, d'aider à soutenir la cause de cette manière-là. Pour la classe politique, c'est de se battre contre ces articles transphobes-là. Puis, ce qu'on doit retenir, dans le fond, c'est que je pense pas, en tout cas, j'espère que c'est pas une question de malice, que ça a été fait simplement dans une ignorance. C'est une ignorance qui est dangereuse, c'est une profonde maladresse. Mais tout de même, c'est qu'on laisse l'orgueil de côté, puis qu'on discute ensemble de solutions proactive pour la suite des choses.
Merci beaucoup, Alice, et merci à toi, cher public, d'avoir été avec nous pour cette heure de radio sur les ondes de Chiz 94.3. On te laisse avec Gab Paquette qui va t'interpréter Magie Rose, et ensuite, il va être en entrevue pendant une heure avec Émilie Rioux à Écoute Locale, les entrevues. Ne manquez pas ça.
La déesse Isis de l'Égypte antique, la mère créatrice d'amour romantique, j'offre ce sacrifice, ce poème, ce cantique pour que l'apocalypse, en cette nuit d'éclipse, entre nous finisse comme les astres s'unissent. Évangélisatrice de la sève d'Osiris.